Radio Barque 24e, notre troisième partie est consacrée à notre invité, Alain Perea. Alors rapidement, même si les gens vous connaissent, d'abord vous avez participé plusieurs fois à cette émission. Vous êtes maire de Vildaigne, vous êtes également un des vice-présidents de l'Aglo, chargé particulièrement des zones d'activité, ce qu'on appelait traditionnellement les zones industrielles, zones artisanales, c'est bien ça, monsieur Perea?
Oui, voilà. Les zones d'activité économique.
Mais surtout, si nous avons souhaitez vous avoir en cette période, c'est parce que depuis un certain temps, vous avez pris fait et cause, vous, pour M. Macron, clairement. D'ailleurs, vous souhaitez avoir l'investiture pour la prochaine élection législative. Que vous attendez? Et ça, c'est autre chose, mais vous allez nous répondre là-dessus. Mais alors, première question, comment vous est venue, il y a un certain nombre de mois, cette notion de... soutenir Emmanuel Macron. Parce que le phénomène aujourd'hui se cristallise. C'était pas évident il y a quelque temps.
Alors, moi, je suis totalement serein par rapport à ça, puisque dès 2012, j'avais soutenu la candidature de Didier Codorniou avec, comme slogan, je le rappelle, faire de la politique autrement. Et nous défendions, à l'époque, l'idée qu'on devait sortir des clivages des partis, que l'on devait se poser la question de l'intérêt des territoires, que l'on devait se poser la question de l'intérêt de la France, avant de se poser la question de l'intérêt des partis. Et nous nous étions opposés aux petits calculs politiciens du Parti socialiste à l'époque, qui était de réserver la circonscription pour une députée socialiste. Nous nous sommes opposés à cela. On a été derrière sanctionné, exclu, mais je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté sur toute cette période-là d'essayer de réformer à la fois le Parti socialiste en étant à l'intérieur, mais aussi de défendre la politique, de faire de la politique autrement. Et nous l'avons appliqué au Grand Narbonne. Nous avons essayé d'avoir un groupe qui soit un groupe de gestion de notre collectivité. Et donc, c'est tout naturellement qu'au mois de février 2016, je tiens à préciser, on m'a proposé de rejoindre une association, puisque le mouvement En Marche n'était pas créé, une association Les Amis d'Emmanuel Macron, qui était à l'échelle de la région ex-Languedoc-Roussillon. J'y suis allé naturellement parce que enfin j'entendais un homme politique au niveau national qui proposait une façon différente de faire de la politique et notamment, encore une fois, de s'élever au-dessus des logiques de parti qui nous tire vers le bas, et au contraire d'aller vers quelque chose de totalement novateur. Et depuis, pas une seule fois, je n'ai douté de sa démarche. Alors bien sûr, il y a quelques mois, on me regardait d'un air un petit peu farfelu, en me disant « oui, oh, tu vas voir, il travaille pour François Hollande, oui, tu vas voir ». Et moi, ce que je vois, c'est que les engagements qu'il a pris, il les tient. Et ce que je vois, c'est que tous les jours, il y a des gens qui m'envoient des messages, qui me téléphonent, pour se rallier à cette démarche. Et donc, localement, nous avons, à l'échelle du territoire, une vraie dynamique. Et cette dynamique, je suis très, très fier d'avoir été parmi les premiers à la créer sur notre territoire.
Cette façon dont, alors, Emmanuel Macron et vous et les gens qui le soutiennent conçoivent les choses, d'après vous, c'est l'esprit 5e République ou c'est déjà un regard vers la 6e?
Alors, je crois qu'on est quand même dans la cinquième. Nous avons une approche, quand on regarde les propositions, qui sont une approche, contrairement par exemple à Mélenchon, où il dit qu'il va tout supprimer, on est dans une approche qui tient compte à la fois de l'organisation actuelle, et on est plutôt sur une remise en cause de l'organisation actuelle, plus que un chamboulement total. Voilà. Moi, je retrouve dans ses propos, je retrouve dans son programme, je retrouve dans ses discours les valeurs qui fondent notre organisation actuelle. Simplement, on les a perdues parce que on s'est caché derrière des logiques qui étaient des logiques de parti. Et donc, ces valeurs qui fondaient notre République ont été, je dirais, escamotées derrière un certain nombre d'autres arrangements. Mais quand il revient sur une organisation au niveau de son programme, sur par exemple notre devise, hein, liberté, égalité, fraternité, j'en reparlerai tout à l'heure, peut-être si on parle du programme, je trouve que on est véritablement dans le sens de notre République actuelle.
Oui, Michel, une question.
Oui, c'est marrant parce qu'en écoutant, en écoutant Alain Perea, mais bon, après avoir écouté aussi Emmanuel Macron, je me disais, mais quand même, la comparaison est peut-être un peu exagérée, mais au début de la Ve République, enfin celui qui a inventé la Ve République, je peux dire, le général de Gaulle.
Oui, ne portait pas en son cœur les partis. Ça pour dire les choses et pour le rappeler.
Quel était son mot d'ordre, en fait, hein. Il y en a assez, en fait, du régime des partis.
Le régime des partis.
Donc, la Ve République, nativement, en fait, est porteuse de cette idée.
Voilà, c'est pour ça que je posais la question à Alain Perea, justement. Sûr. Donc, on serait plutôt dans l'esprit cinquième. Alors maintenant, ce qu'on a pu reprocher, on l'a entendu à droite et à gauche depuis longtemps, c'est que M. Macron n'avait pas un programme clair, net, et en disant qu'il était ni de droite ni de gauche, ça troublait les pistes encore plus. Alors maintenant, Alain Perea, vous êtes là, vous êtes engagé, vous l'avez dit depuis déjà pas mal de temps, donc essayez de nous éclairer sur ce qui nous attend si M. Macron est élu.
Alors, d'abord, dans la question, vous avez une partie de la réponse, c'est-à-dire que, en reprenant cette expression, nous avons entendu à droite et à gauche. Effectivement, nous avons entendu à droite et à gauche.
Ce qu'on lui reproche, d'ailleurs.
Mais non, ce que je veux dire, c'est que je mène une campagne sur le terrain, je rencontre énormément de gens, et les citoyens, ils sont tout à fait à l'écoute de ce que propose Emmanuel Macron, et ils s'y retrouvent. Alors, il y a eu toute une campagne de dénigrement. Alors, au début, il était trop jeune, voilà. Mais j'ai eu un retour récemment d'une personne qui voyage énormément à l'étranger. Ils espèrent que nous allons avoir le courage, nous les Français qui avons une image plutôt conservatrice, de donner à la France le plus jeune président de la République qu'elle n'ait jamais eu. Et donc c'est un point important. Alors on nous a dit qu'il est trop jeune. Ensuite, il n'ose pas quitter le gouvernement. Ensuite, tout un tas de choses. Ensuite, il fera des accords. Ensuite, il travaille pour Hollande. Enfin, toutes les critiques. Et au final, c'était, il n'a pas de programme. Son programme est sorti. Et vous le voyez, les gens, comme vous l'avez dit, de gauche et de droite, eh bien, aujourd'hui, sont en train de nous dire, il n'aura pas de majorité. Voilà. Donc, on en reparlera aussi sûrement, mais je voudrais revenir sur son programme. Son programme a été fait dans une démarche qui a été une démarche, comme il l'explique, à la fois ascendante, avec tout le travail qui a été fait par les comités locaux, et aussi en s'appuyant avec des experts nationaux et internationaux. Moi, je voudrais insister sur deux points qui me paraissent importants dans son programme, parce que je ne veux pas rentrer dans le détail, mais si vous avez des questions, j'y répondrai. Le premier, c'est qu'il nous propose enfin, on a un candidat qui nous propose une démarche, qui est une démarche que l'on appelle pompeusement holistique. Qu'est-ce que ça veut dire, pour reprendre aussi sur les arguments tout à l'heure de Michel Santo, pour qu'on puisse comprendre. Si vous avez mal à la tête, hein, dans la médecine traditionnelle, on vous donne un cachet pour vous soigner la tête. Si vous avez des médecines qui sont des médecines beaucoup plus intégrées, on va chercher pour savoir d'où vient votre problème de migraine ou de votre problème de tête. Ça peut venir du foie, de la vésicule, d'un problème. Et donc, on essaye d'avoir l'approche de fond avant de mettre un pansement sur votre tête. En France, les partis traditionnels depuis des années ne font que ça. Courent après des problèmes ponctuels. Ils sont en permanence en train d'essayer de régler des problèmes ponctuels, alors que il faut avoir une approche qui est une approche beaucoup plus intégrée et une approche qui est beaucoup plus, je dirais, tenant compte de tous les éléments. On l'a vu tout à l'heure sur l'intervention de Michel Santo sur la question d'Areva. On se rend compte que c'est un problème très très complexe, où il y a énormément d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et on ne peut pas se permettre, comme l'ont fait récemment, comme le font depuis des années tous les partis politiques, de traiter uniquement le symptôme extérieur, sans jamais s'occuper de véritablement une approche qui est une approche tenant compte de tous les éléments. Et Emmanuel Macron, dans son programme, a justement, lui, une approche qui est totalement intégrée. C'est le cas, par exemple, sur la question de l'environnement. Il ne parle pas uniquement, comme le font certains candidats, du problème de l'environnement. Il nous dit derrière, l'environnement doit être un formidable levier économique, et si on arrive à créer un véritable levier économique, les questions environnementales suivront derrière. Voilà, donc, premier point. Et deuxième point, je viens de le dire tout à l'heure, il organise, enfin, moi ça fait des années quand je donnais des cours aux jeunes fonctionnaires territoriaux, j'insistais toujours sur le fait que nous devions avoir une organisation territoriale qui soit fondée sur les trois principes fondamentaux, liberté, égalité, fraternité. La liberté, trop souvent, nous, dans notre pays, on a essayé de l'organiser avec des lois. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous posez votre téléphone sur la table, il y a presque une loi qui va vous expliquer dans quel sens vous devez le poser. Tellement on a essayé de tout organiser. Et derrière, nous avons perdu ce que... ce qui pour moi est essentiel, c'est cette approche de capacité à vivre ensemble, ce qu'on appelle la fraternité. Et donc Emmanuel Macron travaille énormément là-dessus, son discours fondateur de Lyon est important là-dessus, et moi je me bats au quotidien sur le terrain pour expliquer que notre société française doit regagner sur ces trois questions-là, et notamment la question de la fraternité.
Oui, parmi les trois piliers justement de la République, vous avez évoqué la fraternité, la liberté et l'égalité. Qu'en est-il dans l'esprit de Monsieur Macron ? Parce que on s'est aperçu aussi parfois que c'est un beau slogan, l'égalité, mais une société trop égalitariste, ça marche pas forcément non plus. Quel est votre point de vue là-dessus ?
C'est justement tout l'intérêt de la démarche d'Emmanuel Macron. C'est que on a eu des partis qui étaient profondément sur la question de la liberté. Il faut laisser le libre échange, il faut laisser la liberté d'entreprise, il faut le laisser.
Mais
la
ça
liberté.
C'est économique, une liberté économique.
Mais pas que. Donc c'est tout ça. Ensuite, vous avez plutôt un courant politique qui est basé sur l'égalité, l'égalitarisme et autres. Mais on voit bien que ce système-là ne peut marcher, de la liberté et de l'égalité, ne peut marcher que si à un moment donné, il y a un système qui vous permet d'accepter que votre voisin a un peu plus de liberté, mais aussi d'accepter que vous, vous êtes en train de rentrer dans une égalité parce que vous devez derrière avoir une démarche qui est une démarche de vivre en société. Et donc, le système doit s'appuyer sur ces trois piliers. Et si on ne s'appuie pas sur ces trois piliers, nous nous retrouvons dans une société française comme elle est actuellement en totale déconfiture. Voilà. Et donc, moi, là-dessus... Je travaille énormément et nous sommes sur le terrain, nous faisons des réunions, j'en fais encore une ce soir à Sigean, j'en fais une la semaine prochaine à La Palme, parce que nous devons être au contact de la population et leur expliquer exactement les choses. Et il y a un formidable écho à toutes ces explications que nous donnons, et nous sommes très satisfaits d'avoir le retour que nous avons à l'échelle de la Narbonnaise.
Oui, Michel, une remarque.
Purement anecdotique, est-ce que tu te souviens, Jean-Claude, de l'âge qu'avait Tony Blair quand il a été nommé Premier ministre ?
Oui, il était relativement jeune.
Il avait 43 ans.
Oui, mais dans les pays anglo-saxons, ça passe mieux, semble-t-il.
Tu sais quel âge a aujourd'hui, hein, le ministre, le Premier ministre, c'est l'équivalent de notre président de la République, du Canada.
Oui, Trudeau, fils. Trudeau, le fils, Trudeau, fils.
44.
Oui, bien sûr, voilà.
Tout ça pour dire que...
Ceci pour dédouaner, entre guillemets, la jeunesse de M. Macron.
Non, mais pour mettre en évidence qu'on est dans un pays aussi qui, culturellement, voilà, a une espèce de on est dans un système, en fait, politique, hein, où la gérontocratie, quand même, cours de bon reste, et tient à les garder.
Voilà. Pas l'Union soviétique, mais...
Ceci dit, moi, sur le terrain, il y a quasiment personne qui me parle de l'âge de Macron sur le terrain, les gens avec qui je discute.
Oui,
c'est nous sommes...
Quel âge avez-vous, au fait, Alain ?
Moi, j'ai 45 ans. Voilà. mais c'est... Les personnes qui parlent de ça, ce sont des gens qui n'ont conçu la politique que dans des partis politiques où il fallait d'abord être la personne qui allait être bien sage dans le parti, et où on lui disait « attends ton tour ». Et donc, c'est une logique de parti.
Et de carriérisme.
Mais le citoyen lambda, il me parle pas de l'âge de Macron. Le citoyen lambda, il me parle de... Aujourd'hui, quelle est sa situation? Et est-ce que Macron va pouvoir apporter une réponse à sa situation et à la façon dont il voit la France demain? Et aujourd'hui, on a un véritable levier avec la démarche, avec le dynamisme qui est impulsé par Emmanuel Macron. Et au niveau international, souvent on nous dit « oui, vous avez vu en Allemagne ce qu'ils font, vous avez vu... » voilà. Eh bien, soyons capables, nous, aujourd'hui, les Français, de montrer qu'on est sur une dynamique aussi progressiste.
Voilà. Bon, la jeunesse de Macron... Enfin, vous connaissez le proverbe « qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». Alors, faut bien trouver des défauts. Parmi les autres défauts que l'on projette sur Macron s'il est élu président, c'est qu'il n'aura pas de majorité. Alors, votre réponse à l'impérieur.
Alors...
Majorité parlementaire, je veux dire.
Deux choses. La première, j'entends beaucoup de personnes qui me parlent de cohabitation. Je m'inscris en faux sur ce système-là. Parce que la cohabitation, je le rappelle, c'est un président, comme on l'a vécu hein, avec François Mitterrand, c'est un président d'une couleur politique,
d'un parti contre un autre parti.
Voilà. Or là, je vois mal les Républicains avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Je vois mal aujourd'hui le Parti socialiste avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Nous nous acheminons donc pas vers une cohabitation, nous nous acheminons vers une Assemblée nationale dans laquelle il va y avoir, et tout à l'heure Michel Santo en a parlé, où il va y avoir, j'en suis intimement convaincu, une majorité qui sera deux députés issus du courant Macron, mais pas forcément majoritaire. Et donc, il faudra travailler, comme le propose Emmanuel Macron, mais depuis le début, il faudra travailler avec les autres groupes politiques afin d'avoir, je dirais, un pays qui avance. Et là, nous aurons deux cas de figure. Nous allons avoir soit des partis politiques qui vont s'enquister sur des positions qui seront des positions d'opposition au président si Emmanuel Macron est élu, auquel cas on va avoir le Parti socialiste qui va être appelé à voter avec le Parti républicain contre Emmanuel Macron, ou alors il y aura une dynamique autour de cela. Moi, je fais le pari de la première hypothèse, c'est-à-dire que nous aurons une véritable dynamique. De temps en temps, il faudra discuter avec les groupes républicains ou les groupes socialistes, mais de manière générale, nous aurons une réelle dynamique. Et donc, moi, ma lecture du dossier, ma lecture de cette question-là, c'est que nous allons avoir le contraire de ce que disent certaines personnes, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une assemblée qui va être une assemblée paralysée, mais nous aurons une assemblée beaucoup plus dynamique, avec une impulsion, je dirais, législative, qui sera beaucoup plus forte que celle que l'on a connue jusqu'à présent, parce que nous allons avoir justement l'effet Macron, qui aura fait exploser ces deux logiques gauche et droite, et donc une vraie dynamique. Je ne suis pas inquiet du tout sur cette question.
Voilà, mais le jeu des alliances, quand ça va à l'extrême, c'est plus ni la 6e ni la 5e, c'est la 4e République.
Alors. Oui. Sauf si effectivement le nombre de députés manquants est marginal.
Je veux dire que s'il y a un vrai
dans ce cas de figure-là, moi j'imagine assez bien Macron aller chercher et ils viendront en courant même hein, la partie très très libérale, pour ne pas dire jupéiste, des députés des Républicains et tout le courant valsien hollandien qui sera élu. Donc ouais. Je ne crois pas qu'il y ait de grandes difficultés politiques à faire ce genre de rassemblement là, puisque de fait, aujourd'hui, il apparaît dans les apports venant de droite et de gauche dès aujourd'hui. Quoi.
Dernier mot pour conclure, Monsieur Perea. Alors, vous ne cachez pas depuis longtemps que vous souhaitez recevoir l'investiture, c'est-à-dire vous souhaiteriez être député, alors je ne sais pas comment on dira, macronien, macroniste.
En marche.
Bon, siéger en tout cas dans cette future majorité ou dans cette alliance future. Vous pensiez que ces investitures allaient être décernées ces jours-ci. Apparemment, ça n'est pas le cas. Expliquez.
Alors, en quelques mots, le mouvement En Marche a clairement dit, et je suis tout à fait dans cette dynamique-là, la priorité, c'est les élections présidentielles. Et sur le terrain, encore une fois, on nous parle des élections présidentielles. Voilà. Donc, moi, je me bats depuis des mois, je vous l'ai dit en préambule, pour faire élire Emmanuel Macron, le plus jeune président de la République, avec un programme qui me correspondent tout à fait, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur programme pour la France, mais aussi, j'ai envie de dire, c'est le meilleur programme pour la Narbonnaise. Voilà. Donc, là-dessus, la question des législatives arrivera dans un deuxième temps. Je ne suis pas inquiet. De toute façon, vous le savez, je suis un homme de conviction. Donc, je continuerai mon combat pour la Narbonnaise et pour la France, quelle que soit ma place, quelle que soit la possibilité d'avancer.
Par contre, même si vous n'obteniez pas l'investiture.
Mais sinon, ça voudrait dire que je me bats pas pour Narbonne, ni pour la Narbonnaise, ni pour la France. Ça voudrait dire que je me bats pour moi. Alors, il y a assez de gens qui le font comme ça sur notre territoire. Quand je vois certaines personnes qui on leur réserve la circonscription depuis des années, ça fait 24 ans qu'ils sont candidats, ça fait je ne sais combien de temps qu'ils sont dans un parti, mais aujourd'hui, parce que le candidat ne leur plaît pas ou le candidat n'a pas le vent en poupe, ne s'affichent jamais et ne vont jamais manifester pour ce candidat. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis pour que Emmanuel Macron soit le président, notre futur président. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment nous avancerons sur la question des législatives. Dans tous les cas, je suis en marche, je reste en marche, et on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour le résultat du premier tour.
Merci Alain Perea. Eh bien, nous vous rattraperons au vol quand on vous retrouvera en marche. Merci en tout cas pour ces explications à ce jour, puisque c'est clair, chaque chose en son temps. Le prochain Radio Barque nous permettra de parler notamment de logement social avec Isabelle Herpe, une des vice-présidentes du Grand Narbonne. Merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.